BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On négocie toujours ce soir au siège de l'Unédic. Il faut trouver un accord d'ici demain matin et sur l'assurance chômage et sur l'emploi des seniors entre les partenaires sociaux. Sinon, c'est le gouvernement qui reprend la main. On va vous raconter ça, bien sûr, ce soir dans l'actualité également. Petit coup de rabot qui se précise sur le crédit impôt recherche et puis Casino qui dévoile son nouveau plan stratégique. Voilà les gros titres du journal dans un instant. 19h15, les experts reviennent. On sera ce soir avec l'entrepreneur Rafik Smati, l'économiste de l'OFCE Bruno Coquet, l'économiste atterré Frédéric Bocara. Voilà le programme. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, c'est censé être la dernière négociation entre les syndicats et le patronat et sur l'assurance chômage et sur l'emploi des seniors. Ça se négocie en ce moment à Paris. Bonsoir Caroline Morisseau. Déjà, sur la réforme de l'assurance chômage dont on a parlé ce matin, il semblerait qu'un accord soit envisageable, Caroline.
Un accord est en tout cas sur la table. Dernière avancée ce matin, le patronat est prêt à lâcher du lest sur la baisse de cotisation patronale de 0,05% qu'il avait négociée. Elle ne s'appliquera qu'au 1er mai et non plus au 1er janvier prochain, ce qui permet d'aller chercher 125 millions d'euros de plus l'an prochain. Les syndicats de leur côté sont prêts à décaler l'âge à partir duquel les seniors bénéficient d'une durée d'indemnisation plus longue. Il faudra désormais avoir 55 ans et non plus 53 ans pour avoir jusqu'à 22 mois et demi d'indemnisation et 57 ans au lieu de 55 pour avoir le droit jusqu'à 27 mois d'indemnité. Les syndicats enfin sont prêts à réduire les indemnités des travailleurs frontaliers, ceux qui travaillent en Suisse par exemple, qui sont nettement mieux payés qu'en France et qui une fois au chômage sont indemnisés par la France. Leurs indemnités vont être abaissées via un dispositif de coefficient réducteur pour tenir compte du fait qu'ils soient mieux payés dans ces pays. Toutes ces mesures sont désormais suspendues à l'autre négociation qui se tient en ce moment même sur les seniors, sachant qu'il n'y aura pas d'accord sur l'assurance chômage si le patronat et les syndicats n'arrivent pas à s'entendre sur la question des seniors. Donc tout ça va se jouer dans les heures à venir.
Voilà pourquoi on continue de négocier. À l'heure actuelle, ça se passe au siège de l'Unédic à Paris. Merci beaucoup Caroline. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business puisqu'on parlait des syndicats. On apprend que plusieurs syndicats de la fonction publique appellent à une journée nationale de grève et de manifestation. Ça sera le 5 décembre prochain, donc ça sera un jeudi comme souvent. Ils veulent notamment dénoncer les coupes budgétaires dans les administrations qui sont prévues, vous savez, dans le cadre du budget de l'année prochaine. Autre poste, justement, dans lequel on va alors peut-être un petit peu sabrer l'an prochain.
Sûrement même,
c'est le crédit impôt recherche. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Il y a échappé ces dernières années, mais apparemment, là, il serait question de raboter aux environs de 400 millions d'euros, c'est ça, hein ?
Exactement. Bercy nous dit regarder d'un œil favorable, ce sont les mots employés au ministère. L'amendement adopté hier en commission des finances du Sénat qui prévoit quelques 400 millions d'euros d'économies sur le crédit d'impôt recherche, amendement déposé par le rapporteur du budget au Sénat, Jean-François Husson, et qui reprend les pistes d'économies qui circulent depuis un certain temps maintenant dans les amendements de l'ancienne majorité, et puis aussi, vous en souvenez, dans les revues de dépenses qui avaient été dévoilées à la rentrée. Concrètement, on parle d'exclure la niche fiscale, le dispositif jeune docteur, les dépenses de veille technologique, et d'abaisser le taux de prise en charge des dépenses de fonctionnement. Tout ça représente au total autour de 400 millions d'euros, c'est-à-dire 5% du CIR, qui, je vous le rappelle, pèse tous les ans quasiment 8 milliards d'euros. Et si Bercy se décide finalement à bouger sur le CIR, c'est aussi pour récupérer cet argent pour prolonger deux autres dispositifs de soutien à l'innovation. Le crédit d'impôt innovation, le C2I et le statut de jeune entreprise innovante, qui avaient disparu, vous vous en souvenez, dans la version initiale du budget de cette année pour faire des économies. Les deux dispositifs au total coûtent 600 millions d'euros. Ça avait été très mal accueilli dans l'écosystème tech et par la secrétaire d'État au numérique Clara Chappaz, qui était venue nous en parler ici même dans la matinale. Et les deux dispositifs, finalement, pourraient donc être en partie sauvés grâce aux économies faites sur le CIR.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas, et puisqu'on parle du budget justement, Michel Barnier annonce ce soir dans le journal Ouest France qu'il engagera probablement le 49-3 pour faire passer le budget 2025. Quand je vois ce qui s'est passé à l'Assemblée, dit Michel Barnier, il me semble difficile de faire autrement au bout de la discussion. Elle fait référence notamment à ses soutiens de la droite et du centre qui ont rejeté ce projet de budget. 49-3, donc plus que probable, dit Michel Barnier ce soir. 19h06. Dans l'actualité, ce soir également, on attendait les derniers décomptes, mais cette fois, c'est sûr, aux États-Unis, la Chambre des représentants va rester à majorité républicaine, même s'il reste quelques sièges à décompter. Concrètement, En quoi est-ce que ça pourrait, alors, soit entraver, soit faciliter le mandat de Donald Trump, car tout est possible. On voit tout ça avec Astrid Olivier.
D'abord, en matière de finances, la Chambre des représentants est la seule capable d'émettre des propositions budgétaires. Elle peut intervenir directement sur la politique de l'exécutif en réduisant ou refusant des crédits. Pour soutenir le pouvoir d'achat ou baisser les impôts, Trump devrait être soutenu par les élus de la Chambre basse. Autre prérogative, le droit d'engager une procédure de destitution contre le président. La dernière en date, votée à la Chambre mais acquittée au Sénat, était dirigée contre Donald Trump après l'assaut du Capitole. Prochaine étape pour la Chambre, élire son président, le speaker, second successeur à la présidence des États-Unis après le vice-président, dirige les débats et définit le calendrier des votes. Sa couleur politique est déterminante. Lors du premier mandat de Donald Trump, la speaker démocrate Nancy Pelosi avait bloqué son projet de construction d'un mur à la frontière mexicaine. Cette fois, Trump aura les mains libres pour mener à bien sa politique migratoire qui sera, selon lui, la plus grande opération d'expulsion de migrants clandestins de l'histoire des États-Unis.
Astrid Olivier, dans l'actualité des entreprises, encore des nominations annoncées aujourd'hui chez LVMH. On apprend notamment qu'Alexandre Arnault, l'un des fils de Bernard Arnault, va devenir directeur général adjoint de la division vins et spiritueux du groupe. L'Europe qui inflige à Meta une amende de quasiment 800 millions d'euros. Bruxelles sanctionne Meta pour entrave à la concurrence. Elle lui reproche d'avoir lié Facebook à son service d'annonces publicitaires en ligne Facebook Marketplace. Meta, cela dit, annonçait qu'il allait faire appel de cette décision. Et puis chez Casino, le nouveau patron a présenté ce matin sa stratégie, enfin la stratégie de ce qu'il reste de Casino. L'objectif avec les marques qui sont toujours là, c'est de jouer plus que jamais la carte de la proximité. Pauline Tadevin.
Pour devenir la référence du commerce de proximité, le patron de Casino mise sur la force de ses marques, Monoprix, Franprix, Naturalia, Cdiscount, Spar, Vival et Petit Casino, mais aussi sur ses franchisés qui représentent 83% de ses magasins. Ils lui permettent de s'alléger de certains coûts et d'être au plus près du terrain et des consommateurs. Philippe Paladi.
Nous allons travailler avec eux pour développer, et ce pour toutes les marques, le prix, l'assortiment, la logistique, les concepts que nous leur demandons de valider.
Au cœur du modèle, la restauration à emporter ou encore les services, notamment en milieu rural. Après avoir cédé ses grandes surfaces, Casino est même sur les rangs pour récupérer les points de vente d'un concurrent en difficulté.
Je me suis porté candidat au rachat des magasins Auchan qui seraient amenés à fermer dans le cadre de la proximité.
Philippe Paladi vise un retour à l'équilibre en 2026 et un volume d'affaires de 15 milliards d'euros en 2028, soit 2 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui. Pour mener à bien sa mission, il peut compter aussi sur la solidité de son actionnaire Daniel Kretinsky. Pas question, nous dit-on, contrairement à certaines rumeurs, de céder ses discounts ou des marques d'ultra-proximité.
Voilà pour Casino. Et puis bonne nouvelle pour Iliad, la maison mère de Free, qui vient de passer le cap des 50 millions de clients en Europe, là, au troisième trimestre. Iliad est en croissance partout, en Italie, en Pologne et même en France. On voit tout ça avec Raphaël Couder.
Free continue d'engranger des clients dans le fixe et sur les box avec 137 000 nouveaux contrats de fibre optique. L'opérateur gagne d'ailleurs de plus en plus d'argent sur chacun de ses abonnés. Son revenu moyen par client, indicateur très scruté par le secteur, progresse de près de 4%. Sur le mobile, en revanche, la dynamique s'essouffle un peu sur un marché qui ne cesse de ralentir et désormais marqué par le retour de la guerre des prix. Free grappille encore 130 000 nouveaux clients au troisième trimestre. Une meilleure performance que le leader Orange, mais moindre que celle de Bouygues Télécom qui a lui conquis 170 000 nouveaux clients sur cette même période, certes en concédant à des baisses de prix contrairement à Free. Tous ces gains d'abonnés se font sans doute au détriment de SFR qui a déjà perdu 850 000 clients depuis le début de l'année. Le groupe de Patrick Drahi doit publier ses résultats à la fin du mois.
Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 19h11, les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Et bonsoir Guillaume.
Terminé en hausse ce soir, hein, le CAC 40.
Belle hausse pour le CAC 40, plus 1,32, 7311 points. Alors vraiment, depuis le début de la semaine, c'est en dents de scie, on le sent. Mais nette surperformance, alors des valeurs tech, hein, l'Euronext Tech Leaders gagne 1,9%, quasiment 2% de hausse pour l'Eurostock 50. Donc là, on se redresse bien. Alors le secteur du jour, c'est celui du luxe avec Burberry qui a flambé du côté de la Bourse de Londres avec l'annonce d'un plan de recentrage, de relance, etc. Ça fait du bien à Kering qui a gagné quasiment 4%, leader du du CAC à 221,15 €. ArcelorMittal, qui était un peu empêtré dans les considérations de politique commerciale entre les États-Unis, la Chine, etc. La semaine a été compliquée. Là, le titre s'est quand même bien redressé avec une progression donc de 3,9%. Puis deux stars, hein, vraiment incontestables sur le SBF 120. Alstom, ça faisait très longtemps qu'Alstom nous avait pas fait une hausse à deux chiffres, hein, plus 12,1% à 22,04 €. Et puis très bon score de la Score aussi, plus 9,7% à 22,46 €. Hein, le titre qui résiste bien malgré un environnement toujours compliqué pour l'assurance et singulièrement pour la réassurance. Le CAC 40 plus 1,32, 7311 points. À noter les volumes qui étaient assez copieux, hein, 3,8 milliards.
Une belle journée en somme. Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment, en mi-séance sur le marché américain. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Hein. Le Dow Jones qui perd 0,2%, 43 847 points. Le Nasdaq, lui, qui perd aussi 0,3%, 19 168. Nous sommes à la mi-séance, bien sûr, à New York. 19h13, nos experts, eux, arrivent tout de suite. Dans deux minutes, on est ensemble jusqu'à 20h. Beaucoup de choses encore à voir ce soir. À tout de suite.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
Allez, un peu plus 19h15, ils sont là évidemment comme tous les soirs, nos experts, pour refaire l'actu du jour. Rafik Smati est avec nous. Bonsoir Rafik.
Bonsoir Guillaume.
Entrepreneur Rafik Smati, bien sûr. Frédéric Bocara est avec nous. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue. Économiste. Pas de dame, mais bon.
Membre des économistes atterrés. On s'y attelle jour après jour, je vous rassure, Frédéric. Et Bruno Coquet avec nous. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Alors, on est proche du dénouement dans un feuilleton qui nous a tenu en haleine pendant quelques semaines. Vous avez depuis ce matin les représentants patronaux et syndicaux qui sont enfermés. Enfin, je dis enfermé, ils peuvent quand même, pas non plus séquestrer, au siège de l'UNEDIC pour essayer de se mettre d'accord d'ici demain matin et sur la future indemnisation des chômeurs et sur l'emploi des seniors, des sujets sur lesquels il y a divergence de fond depuis des mois et des mois et des mois. On a l'impression que s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est pas qu'une impression, c'est l'État qui reprend la main. Donc il faut se mettre d'accord, on va se mettre d'accord, Bruno, d'ici demain matin, sans difficulté finalement. Alors quel accord après, je ne sais pas, mais on va se mettre d'accord.
L'assurance chômage, c'est à peu près clair.
Ouais.
Alors il faut bien comprendre qu'il y a déjà un accord, il date de novembre dernier, de novembre 2023, et là, il y a deux discussions, en gros, une sur l'indemnisation des seniors et une autre sur l'indemnisation des frontaliers, et ça va constituer un avenant à l'accord de l'année dernière, donc ça va être recollé derrière. Donc sur les frontaliers qui coûtent à peu près 800 millions d'euros par an à l'UNEDIC...
Ça c'est les frontaliers qui viennent bosser en France, mais qui, une fois qu'ils perdent leur emploi, s'ils perdent leurs emplois, continuent à être indemnisés.
Alors c'est l'inverse, c'est les frontaliers qui travaillent majoritairement en Suisse ou au Luxembourg.
Ouais.
Et ce qui pose problème, c'est le différentiel de salaire entre ces pays et la France qui s'est accru à la fois parce que les salaires ont augmenté plus vite, mais également parce que le taux de change a varié. Et donc du coup, la règle de calcul de l'allocation fait que jamais ils ne peuvent être intéressés à reprendre un emploi correspondant à leurs compétences en France. Et donc ça coûte très cher à l'UNEDIC et en plus ils ne payent pas de cotisations puisque c'est des emplois étrangers, si je veux très bien simplifier. Donc du coup, ça, je pense qu'ils vont se mettre d'accord. Il suffit de changer un peu la formule, c'est assez facile. Ça fait une économie qui est bienvenue, qui rétablit de l'équité entre les chômeurs. Il faut bien vous présenter les choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte inégalité de ce fait-là. Et ça favorisera, par exemple, les chômeurs de la frontière espagnole. Et donc, du coup, ça, c'est facile. En revanche, ce qui n'est pas facile, c'est l'indemnisation des seniors. Alors, l'indemnisation des seniors, ce qui est facile, c'est qu'on va remonter les bornes d'âge conformément à ce qui se passe dans le...
Pour obtenir les indemnisations maximales dont peuvent bénéficier les seniors.
Voilà, pour avoir le droit plus long dont ils peuvent bénéficier. Mais après, il y a deux choses. Il y a le CDI senior qui est à mi-chemin entre la négociation chômage et la négociation senior. Et d'autre part...
Dont les syndicats ne veulent pas.
Dont ils ne veulent pas. Il y a une exonération donc, de cotisations sociales, donc le gouvernement n'en veut pas forcément. Et puis, il y a la question du cumul de l'allocation avec des revenus du travail. Pour un senior, aujourd'hui, c'est une taxe 100% dans la poche de France Travail si un senior retravaille à l'approche de sa retraite. Donc ça, il faudrait le changer. Ça fait partie du package.
Bon, chacun a l'air de vouloir faire des efforts. Là, on a les informations de Caroline Morisseau qui dit que chacun essaie de faire un effort syndicat, patronat, pour se mettre d'accord avant demain matin pour éviter que le gouvernement reprenne la main, tout simplement. Frédéric, voilà.
Alors, les syndicats, la CGT, elle a intervenu déjà auprès de la presse en disant qu'elle n'était pas d'accord avec cette option des choses. Je pense que...
Non, mais si la CGT fait l'obstruction d'ici demain matin...
C'est pas une histoire d'obstruction. Du coup, les intermittents ont été enlevés parce qu'ils voulaient supprimer le régime des intermittents.
Donc ça, la CGT est satisfaite.
Bon, pas purement satisfaite. Mais non, mais parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a des gens et il y a une économie. pas seulement des économies à faire, mais il y a une économie. La situation de l'économie, c'est une récession qui nous pend au nez, c'est une insuffisance de qualification, avec un problème d'efficacité du travail, et c'est l'âge de la retraite qui a augmenté, donc les seniors, sinon, seraient au chômage, peuvent être plus au chômage. Donc, l'optique qui est, on fait des petits trucs des deux côtés pour trouver un peu de pognon, mais on continue à tordre le bras aux chômeurs pour les faire retravailler le plus tôt possible, c'est inadapté aux enjeux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut développer les compétences. Il faut mobiliser d'argent pour développer les compétences. C'est ça, mobiliser de l'argent pour la formation. Donc, et ça, c'est malheureusement pas dans la négociation. On pourrait changer les cotisations sociales, par exemple. On pourrait faire, on l'a expérimenté, un bonus-malus. On a expérimenté un bonus-malus, mais très restreint, sur certains types de contrats. Et on a vu qu'il marche. On pourrait faire un bonus-malus pour, effectivement, avec un taux plus élevé pour les entreprises qui suppriment des emplois, pour que ça finance...
La contribution de Lalande, ça n'a pas marché. Ça
non, mais parce que c'était très restreint. Il faut un truc très général qui ne permet pas de rentrer, de trouver des trous dans les mailles du filet. Il faut un truc très général et qui donne un sens, c'est-à-dire parce que ça permet de trouver, ça change les comportements d'entreprise, ça les aide à changer, mais ça permet aussi, ça soutient celles qui développent l'emploi, parce que du coup, proportionnellement, elles paient moins de cotisations, mais ça permet de trouver des moyens pour développer la formation. Alors, la dernière chose, c'est sur les frontaliers.
Oui.
Je pense que sur les frontaliers, je comprends que la négociation elle le prenne sous cet angle-là, mais l'enjeu, c'est plutôt d'avoir une sorte de compensation au niveau européen et un système de compensation.
Non, c'est, parce que, c'est la face nord, on n'y arrivera jamais.
Jamais, mais ça, alors
non,
si on
non,
commence...
Non, parce que les autres n'y ont pas intérêt. Et donc, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où ton interlocuteur, il va perdre 800 millions par an, il ne va pas accepter ta négociation.
Mais non, c'est l'inverse.
Non.
Ces gens-là, ils payent des cotisations sociales dans leur pays et c'est en France qu'ils tirent sur le système.
Mais non, mais ils n'ont rien à voir. C'est trois fois moins de cotisations.
Rafik Smati, qu'en pense l'entrepreneur? On a la chance d'avoir un entrepreneur sur ce plateau. Qu'en pense le chef d'entreprise Rafik Smati, finalement, de cette négociation?
D'abord,
c'est tout le monde gagnant, tout le monde perdant d'ici demain matin, si on n'arrive pas à se mettre d'accord.
Ce qu'il y a de très intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est la méthode. C'est-à-dire que vous avez un cap qui a été fixé par le gouvernement, et c'est ce qu'on demande à un gouvernement, par définition. Donc on est censé faire des économies. Et moi, je trouve très intéressant de confier le bébé aux partenaires sociaux, qui se réunissent en conclave et qui doivent accoucher d'une solution. Et je pense, et je pressens, qu'ils arriveront à accoucher de quelque chose, parce que c'est leur crédibilité qui est en jeu, et puis c'est l'intérêt, et c'est l'intérêt du débat démocratique et syndical. Donc moi, je pressens devant vous que l'issue sera plutôt positive. Ensuite, chacun jouera ses postures à gauche et à droite, mais ça, c'est de bonne guerre. Et si ça marche, ça serait un cas d'école intéressant. Ça,
oui.
Ça voudrait dire qu'on est capable de réformer notre pays, on est capable, sur un endroit où il y a des rigidités comme le marché du travail ou l'emploi des seniors, on est capable de faire bouger des lignes, de faire des économies dans le consensus.
Mais on n'a pas besoin d'économies, on a besoin de développer les compétences.
C'est ça l'enjeu.
La feuille de route est délirante par rapport aux enjeux du pays.
Ça, c'est un autre sujet.
Mais non, c'est le sujet. La maison brûle et on fait « Oh, allons faire des économies !»
Allez, laissez Rafik finir.
C'est ça.
Laissez Rafik finir.
Et après, on parle de la méthode. On enferme dans la méthode sans voir les contenus.
Attendez, Frédéric.
C'est terrible.
Vous êtes à côté du sujet. Qui est une patate chaude que l'on refile aux générations futures, ce qui est absolument
irresponsable. On leur refile des gymnases, on leur refile plein de choses aux générations futures, financées par la dette. Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez me dire sur 1000 euros de dépenses publiques, combien servent à financer les gymnases et la dépense publique d'avenir? Combien?
Alors, très bien, nous sommes d'accord.
Le
problème, c'est l'utilisation de la dette et de l'argent.
C'est que l'argent public.
Et c'est pas la dette.
Et la dette publique.
Derrière la dette, il y a des choses qui se développent. Il y a des gymnases, il y a des emplois de services publics.
La dette, essentiellement, finance notre train de vie. On vit au-dessus de nos moyens avec des finances publiques et un modèle social.
Le train de vie, c'est l'éducation nationale que vous appelez le train de vie, c'est pouvoir former nos enfants.
Moi, j'ai un truc à dire sur la question.
C'est fondamental.
Laissez Rafik finir.
Évidemment que l'éducation nationale est une dépense d'avenir, par définition.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous pensez que quand on s'effondre dans les classements PISA, comme c'est le cas aujourd'hui, ou quand on a un niveau en mathématiques qui est le plus nul de tous les pays de l'OCDE, est-ce que vous considérez que c'est un investissement rentable?
Il faut développer le système éducatif.
Et c'est certainement pas en mettant plus d'argent sur la table que vous ayez.
Vous êtes un drôle de raisonneur. Parce qu'au contraire, il faut développer le système éducatif.
Allez.
C'est absolument ça.
Il n'a pas dit le contraire.
Il a dit qu'il ne faut pas mettre plus d'argent dans le système éducatif, il faut même en mettre moins. C'est parce qu'on en a mis moins qu'il est démoli.
Aujourd'hui,
un élève français
en primaire coûte plus cher qu'un élève allemand en primaire. Regardez les classements PISA.
Non, c'est faux.
Ah bah si.
C'est faux. Et les enseignants français sont les moins bien payés de toute l'Europe.
C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'il faut regarder du côté des personnels non enseignants? C'est ça que vous dites en creux.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Ah oui, il faut demander aux profs de faire en plus.
Non,
les emplois du temps.
Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de travestir mon propos. Je dis que nos enfants sont moins bien formés que les voisins et vous me répondez.
Ils sont moins bien formés, vous me dites qu'ils coûtent plus cher. C'est les enseignants qui coûtent moins cher que.
Et vous me répondez en disant oui, mais nos enseignants sont mal payés. Mais vous avez raison, nos enseignants sont mal payés. Mais alors posons-nous la question de savoir pourquoi on a des enseignants qui sont mal payés et des enfants qui sont mal formés.
Et donc il faut plus de dépenses dans l'éducation nationale. Il faut exactement le contraire de ce que vous avez dit. Mais vous savez manier une chose et son contraire. Vous êtes vraiment dans l'air du temps.
Allez, Bruno Coquet.
Je peux conclure sur l'assurance chômage.
Oui, s'il vous plaît. Oui.
Alors sur l'assurance chômage, c'est assez simple. On n'y comprend plus rien. Les règles partent dans tous les sens. Il y a 600 pages de réglementation. Il faut remettre le système à plat par rapport aux besoins du marché du travail aujourd'hui.
Oui.
Parce qu'il faut avoir en tête que l'accord que vont signer les partenaires sociaux, très probablement, celui de l'année dernière, il valide pratiquement 90% de tout ce qu'avait fait le gouvernement depuis 2017. Donc c'est ça qui est compliqué.
Bon, on verra ce qu'il en sera, on verra ce qui sera négocié, ce qui sortira de la négociation. Peut-être ce soir, peut-être cette nuit, peut-être demain matin. En tout cas, ils ont prévu de négocier encore demain matin au cas où. On risque d'y passer la nuit. Est-ce que vous achetez, ce que veulent faire les sénateurs pour renflouer les caisses de la Sécu, augmenter le temps de travail de 7 heures par an? Autant dire une journée de travail en plus ou un jour férié en moins en faveur des personnes âgées et handicapées. Antoine Armand, le ministre de l'Économie et des Finances, est plutôt pour, lui, a priori. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Bon, je ne vais pas vous dire ici qu'on la retient alors qu'on doit la travailler ensemble. Ce que je vais vous dire ici, c'est que toutes les propositions qui vont dans le sens de dire il faut travailler davantage, on en prend acte, on les étudiera. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste une question budgétaire. Parce que j'entends ce que certains disent. Ils disent, très bien, ils n'arrivent pas à faire des économies dans la dépense publique, donc ils nous demandent de travailler davantage. Là, je vous parle d'une question économique. On est dans un pays...
qui ne libère pas le travail.
Bon, alors supprimer un jour férié parce que ça revient à ça, grosso modo. Enfin, c'est pas la révolution du siècle, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous dites, Rafik, vous?
Je pense que le sujet est mal appréhendé, si je peux me permettre.
Oui,
par le ministre.
C'est l'économie à la petite semaine.
C'est une mauvaise réponse à une bonne question. Le sujet, lequel est-il? C'est le travail. Moi, je suis de ceux qui pensent. C'est pas une conviction, c'est un fait que la France ne travaille pas assez. On a aujourd'hui
collectivement.
Merci. C'est-à-dire que nous avons nous travaillons collectivement moins dans l'année et nous travaillons collectivement moins dans la vie. C'est un fait. Et d'ailleurs, le taux d'emploi aujourd'hui en France est significativement inférieur à celui de nos voisins. Il est de l'ordre de 67%.
69%. On vient de passer 69%.
Voilà.
Collectivement, mais chaque individu,
qui travaille
plus longtemps.
Si vous me permettez d'exprimer mon raisonnement, et on est à peu près à 10 points de plus en Allemagne et aux Pays-Bas. Et donc, le sujet principal d'une politique économique aujourd'hui devrait être celui-ci. Comment nous faisons pour hausser le taux d'emploi.
Oui.
Et la réforme de l'assurance chômage et de l'emploi des seniors, d'ailleurs, procède de cette idée-là.
Et c'est
comme ça qu'il faut présenter le projet. Parce que pourquoi ? Parce qu'un taux d'emploi qui serait au niveau des Allemands ou des Néerlandais, c'est 130 milliards de rentrées fiscales supplémentaires. Et donc, ça réglerait une grande partie de nos problèmes. Et ça nous permettrait d'investir davantage dans tous les sujets, dans l'avenir, dans le régalien, dans l'éducation et d'avoir un modèle social solide.
Frédéric Bancard,
alors là où je pense que nous serons d'accord, c'est qu'il faut effectivement une meilleure efficacité de notre économie. Et donc, des emplois efficaces qui permettent de produire mieux et plus. Autrement aussi, mais ça, on sera d'accord. Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais je pense qu'on sera d'accord. La question, c'est de ne pas créer n'importe quel type d'emploi à n'importe quel prix. Parce qu'on vient d'avoir 3-4 ans, là, où la création d'emplois qui s'est faite a été très inefficace. Donc, le problème, il est de créer des emplois, pas seulement de faire travailler plus les mêmes. Donc, de rendre le travail efficace par la qualité de l'emploi.
On est d'accord.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on ne prend pas le problème par le bon bout, du coup. En disant, en plus, on fait... c'est pour serrer
la vis,
très lentement,
c'est de la réforme à la petite semaine. Enfin, voilà,
c'est un truc à la petite semaine.
Bon.
Il y a, quand même, et excusez-moi, là, on sera peut-être moins d'accord, mais c'est normal qu'il y ait du débat, des choses où on est plus d'accord, d'autres où on l'est moins. Il y a quelque chose qui s'est passé là. En un an, on a regardé avec mes amis récemment ce qui s'est passé dans les entreprises. Les revenus financiers des entreprises et des banques ont explosé. On était à 280 milliards à peu près par an. Là, on est à 500 milliards par an. Qui ne cotisent rien, qui n'ont pas de cotisation sociale.
C'est des chiffres, quels sont
INSEE, chiffres INSEE. Cotisation sociale des entreprises non financières, revenus financiers des entreprises non financières, plus revenus financiers nets des banques. C'est autour de 500 milliards.
C'est gigantesque. Il faudrait pas seulement les taxer comme si c'était un trésor, mais les taxer pour les dégonfler et pour inciter à l'investissement efficace avec une modulation des taux. Et donc il faut basculer notre système pour qu'il aille sur l'emploi.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti, 19h35, on est ensemble jusqu'à 20h, sans pub s'il vous plaît, pour décrypter toujours l'actualité économique. On est toujours avec Rafik Smati, avec Bruno Coquet, avec Frédéric Bocara. On va parler des agriculteurs, mais enfin, vous voulez entendre Bruno aussi sur la volonté des sénateurs de nous faire travailler 7 heures de plus par an. Bon, un jour férié en moins, puis on n'en parle plus en fait, Bruno. Enfin,
c'est pas
un peu dans le non-dit là quand même, dans cette histoire.
D'abord, qu'il faille augmenter la durée travaillée sur toute la vie, c'est-à-dire le taux d'activité et le taux d'emploi ne fait pas de débat.
Oui.
Là, ce dont on parle, c'est d'augmenter la durée annuelle du travail.
Oui. Donc, 7 heures.
Et ce qui intéresse, j'imagine, le ministre des Finances, c'est que ça rapporte immédiatement. Pourquoi ? Oui. Parce qu'en fait, le mécanisme de ça, c'est une taxe de 0,3% sur les entreprises qu'elles payent tout de suite.
Oui.
Et puis après, c'est débrouillez-vous. Donc, on a déjà fait ça une fois. Ça s'est terminé en 2008 par une augmentation de 7 heures de la durée du travail dans le Code du travail. Donc, on connaît bien, on va finir par faire la même chose. Ça change marginalement le coût du travail, marginalement le taux d'emploi, marginalement le taux d'activité. Donc, c'est pas une réforme structurelle, comme dirait l'autre.
Non.
Mais c'est une réforme qui va rapporter tout de suite 2,5 milliards à peu près.
Comme la journée de solidarité, comme le lundi de Pentecôte finalement.
Mais qui ne concerne pas la fonction publique. Il faut avoir ça en tête parce que les employeurs publics ne paient pas. S'ils payaient, ça rapporterait à peu près 800 millions de plus. Et donc, voilà. Donc c'est pas, disons que c'est d'un point de vue budgétaire, c'est super. Si on regarde les réformes structurelles à faire en France, c'est pas par là qu'il fallait commencer.
Puis du point de vue de la cohésion sociale, ça va pas mettre un bon climat, quoi.
C'est le mot qu'on puisse dire.
Bah oui.
Non, bien. Les agriculteurs.
C'est un coût excessif.
Qui vont donc reprendre leur mobilisation lundi prochain jusqu'à la mi-décembre, donc a dit la FNSEA. Ils repartiront au front 1 parce qu'ils considèrent que rien n'a vraiment bougé depuis janvier. 2 parce qu'il y a cet accord UE-Mercosur, vous savez, dont on pensait qu'il pourrait être signé la semaine prochaine lors du G20 au Brésil. Mais écoutez ce que disait ce matin la ministre française du Commerce extérieur, Sophie Prima. Mais même elle pense que ça ne se fera pas a priori. Écoutez.
De mes discussions avec certains ministres de pays du Mercosur, que vous avez cité tout à l'heure, monsieur le président Rapin, contrairement à ce qui est dit, je ne sens pas un enthousiasme délirant du côté du Mercosur pour aller à la fin de cet accord. Je crois que l'enthousiasme, il est du côté de certains pays européens, voyant les marchés. Du côté des pays du Mercosur, on m'a même proposé de façon informelle que nous travaillions à des accords bilatéraux.
Voilà, message passé notamment aux amis allemands qui, eux, se réjouiraient de signer cet accord de libre-échange UE-Mercosur parce que, vous savez, le petit nom, on le répète souvent ici, le petit surnom de ce traité de libre-échange, c'est, comme on dit, bœuf argentin contre grosse bagnole allemande, quoi, grosso modo. Est-ce qu'il faut signer cet accord de libre-échange, Rafik, pour vous entre...
J'ai une position qui est extrêmement minoritaire et pas populaire, mais j'aborde ce sujet de manière non dogmatique. Je suis conscient de tout ce que disent les agriculteurs.
Évidemment. Vous ne regardez pas seulement le volet agricole de l'accord, vous regardez le tout.
Moi, je regarde l'intégralité de l'accord, et d'un point de vue économique, mais aussi géopolitique. On est aujourd'hui dans un monde avec une géopolitique qui est extrêmement tourmentée, avec les États-Unis qui vont avoir la destinée, qui vont être la leur, et qui vont probablement se replier sur eux-mêmes, avec la Chine qui est un géant. On est en train de se faire prendre en sandwich entre ces deux géants. Et moi, plutôt que d'être en réaction permanente, j'attends de l'Europe qu'elle soit dans l'action. Et là, nous avons un marché qui est un marché de 750 millions de consommateurs.
Alors, le Mercosur, c'est 270 millions de consommateurs.
Oui, je parle
dans l'ensemble,
du marché global. Oui. On est sur un marché qui nous permet d'augmenter un petit peu la taille critique qui est la nôtre, et puis surtout, qui nous permet d'être en conquête plutôt qu'en réaction. Et puis, c'est là aussi la nature horreur du vide. C'est-à-dire que si on n'y va pas, si on prétend avoir la science infuse, et si on considère qu'on est chez nous, entre Européens, et puis on ne va pas regarder, on ne va pas discuter avec le reste du monde, vous croyez que les Chinois, ils vont se laisser faire ? Les Chinois, ils vont évidemment aller en Amérique du Sud. Donc moi, je crois que cet accord-là est philosophiquement souhaitable. Ensuite, s'il y a des virgules à négocier, ça fait 20 ans qu'on négocie.
25 ans même.
S'il y a des virgules à négocier et quelques mots ajoutés. Faisons-le. Mais ne partons pas du principe, parce que je trouve ça profondément démagogue et populiste, qui en disant, mais non, on va pas le signer parce que c'est un mauvais accord. Non, c'est fondamentalement, le libre-échange apporterait de la prospérité à l'Europe. Il faut le dire, je suis définitivement pas populaire et minoritaire en le disant, mais j'en suis convaincu.
Les agriculteurs, ils perdraient, mais ils gagneraient aussi par certains aspects. Il faut quand même voir ça, Frédéric. Vous insistez comme beaucoup sur le volet agricole.
Il m'a donné la parole.
Je vais parler.
D'abord, il y a plusieurs. Effectivement, il faut rappeler, il y a plusieurs volets. Il y a l'agriculture, l'agroalimentaire. Il y a les matières premières. Il faut oublier qu'il y a du lithium et des choses comme ça. Le cuivre, non, parce que
nous allons en partir un petit peu sécuriser nos approvisionnements. Lithium, cobalt.
Attendez.
Nickel.
Il y a l'industrie de l'autre côté.
Cuivre.
Il y a l'industrie de l'autre côté.
Oui.
Avec des intérêts différents, donc des deux côtés. Les enjeux, en réalité, c'est l'emploi, la santé, l'environnement. Donc, du côté de l'emploi, est-ce que ça ne va pas détruire les emplois ? Du côté de la santé, il y a quand même des problèmes de normes de santé. Sur le bœuf, par exemple, la façon dont il est produit au Brésil ou en Argentine.
Il y a les clauses miroirs, problème. Il y a les clauses miroirs.
Oui, mais c'est sans contrôle, en réalité. C'est ça, le problème de ces accords. Et du point de vue de l'environnement aussi, ça pose problème. Mais c'est intéressant ce que dit la ministre. Alors, il y a une posture un peu politique au sens politicien des choses. Mais c'est vrai qu'il y a une hésitation du côté du Mercosur qui est... mais nous, on veut pouvoir développer notre industrie, on est désindustrialisé, l'Europe aussi, mais le Mercosur le dit aussi. Et donc, on ne veut pas encore se faire bouffer par une industrie européenne. Ce qui pourrait nous amener à négocier, non pas rien, là où vous auriez raison, c'est si on disait aucun accord et on ferme l'Europe. Mais un autre type d'accord, des accords de maîtrise des échanges et des investissements, parce qu'il n'y a pas que des échanges,
c'est ce qu'elle sous-entend. C'est ce qu'elle sous-entend, la ministre.
De maîtrise des échanges et des investissements, en ayant pour but le développement des biens communs des deux côtés. Emploi, santé, environnement. On pourrait entrer sur une autre logique. Et c'est d'ailleurs ce que, quand on avait fait un rapport au Conseil économique, social et environnemental, lorsque j'y siégeais, nous avions préconisé, c'était pour le TAFTA à l'époque, effectivement, des accords de maîtrise des échanges des investissements au regard. Est-ce que ça développe les biens communs ? Est-ce que ça développe l'emploi, la santé et l'environnement ? Est-ce qu'il renvoie, je conclue, vers du coup le besoin de financement, et ça renvoie vers le G20.
Oui.
La question, c'est le financement du développement des deux côtés et de vérifier qu'il bénéficie les deux côtés. Donc toute une maîtrise de ce développement-là.
Est-ce qu'il y a la place qu'il faut ouvrir. Est-ce qu'il y a la place pour un compromis
et c'est une grande question géopolitique.
Vous dites non, il faut y aller franco.
Mais c'est une question géopolitique
vis-à-vis du Sud. C'est une question de réel politique. Ça fait 25 ans qu'on bosse sur le dossier. Il y a tous les pays européens qui sont partants pour signer.
Non.
Je ne suis pas certain que nous, aujourd'hui, on soit en situation de rapport de force favorable.
Non, sur les pays, c'est erroné. La Pologne est plutôt du côté de la France, n'est pas pour signer.
Oui, d'accord.
L'Autriche non plus. L'Italie se questionne.
L'Europe est fragmentée.
Les Pays-Bas se questionnent.
Il y a quand même une grosse majorité en faveur de cet accord.
Un autre type de maîtrise du commerce et vers le développement, là, on peut emmener du monde.
C'est vrai qu'il y a des partisans de cet accord. Il faut le dire, en Europe. L'Europe est fragmentée.
L'Allemagne est pour. C'est l'essentiel.
Oui, Bruno Coquet. Oui.
Alors, d'abord, le commerce avec le Mercosur augmente spontanément sans accord. Déjà, c'est aussi bien les importations que les exportations. Et assez fortement sur les dernières années. C'est la première observation. La deuxième, c'est... pour ce qui concerne les voitures, moi je crois que les constructeurs européens produisent de moins en moins en Europe. Et puis d'autre part, qu'ils n'arrivent pas à être compétitifs face aux voitures chinoises.
C'est vrai.
Je vois pas pourquoi ils le seraient d'un seul coup.
Et dès que vous avez des usines en Amérique latine qui ferment, ce sont les Chinois qui viennent récupérer la mise, je vous signale. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui.
Bien sûr, parce qu'ils savent faire des moteurs à explosion. Et donc du coup, c'est aussi ça qui intéresse probablement les Allemands, c'est qu'on sait faire des moteurs à explosion et qu'il y a un marché pour ça, parce qu'eux, ils sont pas électrifiés pour des tas de raisons, notamment géographiques. Et donc, le point, c'est qu'on a bien compris que ça intéressait les Allemands. Pour la compétitivité des constructeurs automobiles, on en doute un peu. Après, il y a les normes sanitaires. Il y a un moment donné, ces normes sanitaires, il faut qu'elles soient équitables. Alors, il y a quelques années, on parlait du poulet brésilien. Je crois que sans accord, on importe énormément poulet brésilien.
Mais bien sûr.
Énormément de soja OGM.
Beaucoup de bœuf argentin aussi, c'est pareil, on importe déjà.
Franchement, je ne comprends pas le problème. Qu'est-ce qu'on veut de plus, en fait ? Apparemment, ça marche bien, le commerce se développe.
des deux côtés, hein, importation et exportation. Ça pose déjà des problèmes qu'on n'a pas résolus. Les agriculteurs nous disent ah ben ça va en poser plus. Je pense pas qu'ils aient complètement tort.
Donc il y a pas besoin d'accord en fait si vous, ça vous le dites.
Ben, je vois pas la valeur ajoutée de l'accord par rapport à la dynamique qu'on observe.
D'une manière générale, la tendance à surestimer les effets, alors positifs ou négatifs, des accords de libre-échange, voilà, qui fondamentalement ne changent pas la donne.
Quand on... Je pense qu'il y a la question géopolitique derrière ça aussi.
Que ça apportait plus.
Non.
Voilà. Et c'est ça qui n'est pas clair. Donc parce qu'on peut du coup craindre que ça apporte quelque chose de moins. Alors nous cite toujours le cas du CETA qui n'a pas été adopté avec le Canada en disant ben oui mais regardez les échanges.
Oui mais que les effets plus bénéfiques qu'on ne le pensait le CETA. Hein,
oui. Non mais sauf que les gagnants et les perdants au sein de la filière agricole ne sont pas forcément les mêmes.
C'est
si
vrai,
c'est Lactalis qui gagne et les agriculteurs qui perdent. On fait un total évidemment c'est zéro mais il y a quand même des gros perdants. Quoi.
Non mais je pense qu'il y a en plus une dimension géopolitique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Europe va faire dans cette affaire-là. Dans cette situation-là, quelles initiatives va prendre l'Europe ? Donc, le fait de brandir un accord, ça donne l'impression de faire quelque chose. À mon avis, c'est faire quelque chose qui nous mettrait en difficulté. Mais il faut faire quelque chose.
Des produits laitiers,
des vins spiritueux, des produits engager un autre type de relation avec le Sud qui permet son développement. Rafik. Mais ce qui envoie vers le financement du développement et d'autres relations, et donc le G20.
Rafik Smati.
Ce que je ressens dans ce débat, qui est en réalité très franco-français, c'est au fond de la peur. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, nous avons peur de l'avenir, nous avons peur de changer les choses, nous avons peur de bousculer les lignes. Alors qu'en réalité, notre boussole, notre obsession devrait être d'avancer. Quand on est chef d'entreprise...
Il faut de la recherche d'intérêt, quand même. C'est pas de la
peur. Quand on est entrepreneur, on applique une méthode, on avance, on se trompe, on corrige, on avance. C'est comme ça que ça marche. On va pas faire une avancée absolue en disant, tiens, voilà, on va faire la réforme ou le traité de libre-échange du siècle, on ne le touchera pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez ceux aujourd'hui qui ont peur, qui disent, il faut pas faire parce que on est en danger. Et puis, vous avez les autres qui disent, qui sont dans la stratégie des petits pas, qui consiste à dire, il faut qu'on avance. Et puis, il y a des choses qui n'iront pas, et on les corrigera. Et on aura un leadership qui sera suffisamment puissant en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais soyons positifs, soyons constructifs, et on aura un leadership qui nous permettra de faire bouger les lignes. Avançons.
La logique de décès et d'erreur, ok, mais là, le point, c'est que tout le monde a en tête qu'on a fait une énorme erreur avec la Chine, et qu'on n'arrive pas à la corriger, et que du coup, la peur, entre guillemets, elle est là. Moi, je dis, il faut quand même regarder la recherche d'intérêt. Et puis, il y a quand même une bizarre... Alors, sur le franco-français, je suis d'accord, moi, je suis très surpris qu'on ait un ministre du commerce extérieur, c'est une compétence européenne. On n'est plus dans les années 80, enfin. Donc, et l'accord bilatéral est avec l'Europe, hein. Il n'est pas avec la France. Donc, faut pas se tromper.
D'abord, essai erreur. Il y a quand même de la santé. Il y a des gens derrière. Donc, il faut quand même, je dis pas que vous réfléchissez pas, mais c'est pas ça. Mais il faut.
Non, mais
c'est normal que la société réfléchisse avant de prendre une décision.
Mais d'ailleurs, les Allemands qui sont
parce qu'il y a des gens qui peuvent mourir
les
derrière.
Les Allemands
de
qui
santé,
sont très engagés sur les sujets de santé publique et d'écologie sont d'accord avec ce traité. Donc c'est que
vous
c'est
permettez
pas,
de finir.
Donc c'est que sur c'est pas si délirant que ça.
Sur l'écologie, l'Allemagne émet bien plus de carbone que la France, notamment avec ses centrales à charbon. Donc je dirais pas que l'Allemagne est plus engagée sur les sujets écologiques.
Non,
il y a des problèmes de santé.
Je parle pas des politiques allemands qui ont fait une bêtises,
il y a des problèmes
de nucléaire.
Mais je pense graphique. Attends.
Il y a des problèmes.
Je parle de la conscience écologique auprès du citoyen allemand. Je ne sais pas si vous allez en Allemagne, je ne sais pas si vous côtoyez des Allemands. La conscience écologique chez le citoyen ordinaire allemand est extrêmement élevée. Et je n'imagine pas que cette sensibilité puisse s'asseoir sur des règles de santé publique.
Eh ben, c'est pas le citoyen qui décide, malheureusement, en Allemagne. Hein. C'est quand même des politiques qui, en plus, avec une crise très forte qu'on a en Allemagne aujourd'hui.
Démocratie, quand même.
Les citoyens, ils voudraient qu'on développe les services publics en Allemagne et on ne les développe pas.
À tous, ils votent.
Manque 100 000 soignants à l'hôpital. On en a parlé plusieurs fois. Cette question de santé et d'écologie est importante derrière, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on pourrait faire vraiment du nouveau. C'est d'autres relations financières avec le Sud, avec une transformation du FMI et un financement du développement tout autre. C'est ça ce que devrait porter l'Europe. Et là, effectivement, elle contrerait ce problème de l'égoïsme américain ou de la fermeture de la Chine qui, aujourd'hui, pourrait se retrouver, à alimenter une fracturation du monde.
Un mot, puisque vous parlez des Américains, Joe Biden et Xi Jinping, qui viennent d'arriver chacun de leur côté au Pérou, à Lima. Vous savez qu'il y a le sommet de l'Asie-Pacifique, le sommet de l'APEC qui va se tenir là-bas, qui va rassembler 21 pays qui pèsent en cumulé 60% du PIB mondial. Donc il y a du très très lourd. Biden et Xi vont se voir physiquement samedi prochain à Lima, au Pérou. Alors autant vous me dites Biden, il va les mains dans les poches, autant Xi Jinping, on l'a pas entendu depuis la victoire de Trump aux élections américaines. On a le sentiment qu'on va parler que de Biden, en fait, que de Trump pendant ces quelques jours du côté de l'Asie-Pacifique, voilà, parce que c'est là que tout se focalise, évidemment.
Donc, d'abord, ce sommet est une grande leçon d'humilité pour nous, les Européens.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une façon de nous rappeler, et il faut vraiment qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on n'est plus le centre du monde. On l'a été il y a quelques décennies ou quelques siècles, on n'est plus le centre du monde. Il est en train de se passer des choses aujourd'hui ailleurs, oui, sur la planète, d'où l'intérêt aujourd'hui de rentrer dans ce rapport de force, d'être, comme dirait l'autre, des carnivores.
Avec un autre contenu et pas pour bouffer les autres.
Ah mais on est complètement d'accord. Mais en étant
pas carnivore, alors.
En étant offensif.
Avec un autre contenu.
En étant offensif et en étant conscient des rapports de force. Si vous ne rentrez pas dans les rapports de force, vous vous ferez bouffer.
Si vous n'êtes pas herbivore, vous êtes carnivore. Voilà. Si je traduis à peu près 30 secondes là sur le sommet de l'APEC, vous avez tous les 20 pays là qui pèsent 60% du PIB mondial.
Pourquoi il est à Lima? Oui. Parce qu'il y a une infrastructure portuaire qui est en train d'être développée. Donc parce que la
Chine. Et dans lesquels les Chinois investissent. Ils sont en train de s'ouvrir une porte massive vers l'Amérique du Sud.
Parce que la Chine prend la question du développement dont ont besoin les pays. Et nous ne la prenons pas.
Oui.
D'autres relations financières avec le Sud. Nous avons besoin de nous émanciper du dollar. Nous pourrions être un pont avec le Sud et nous ne cherchons pas ça. Quelqu'un qui voit aussi ça, c'est, comment s'appelle-t-il, De Villepin, qui sent qu'il faut d'autres relations avec le Sud. À mon avis, ce qui se passe dans le monde est très important, mais ça devrait nous provoquer à changer nos relations.
30 secondes sur l'Asie-Pacifique, Bruno, on est au bout, là, sur ce sommet, là, quand même. Là, c'est...
S'ils se mettent d'accord avec les Chinois pour se répartir le monde, on n'y pourra pas grand-chose. Ce qu'on peut maîtriser à court terme, c'est de ne pas être la tirelire locale, c'est-à-dire de s'endetter à l'infini pour acheter les produits des uns et des autres. Ça, on peut déjà le faire dans le rapport de force. Il y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, puisqu'on ne sera pas autour de cette table comme en 1945. Ce n'est pas un Yalta, hein, donc... ça prend quand même un peu chemin là.
Lima n'est pas Yalta.
Ouais. Voilà, exactement. Allez, 19h52, c'est l'extra time, comme tous les soirs, pour terminer cette émission. Vos avis du soir, coup de gueule et coup de cœur, l'un ou l'autre, sur 30 secondes, ça c'est laissé à votre discrétion. Qui va commencer? Bruno, allez, 30 secondes, c'est parti.
Alors moi, je vais vous parler des relocalisateurs. Vous voyez, j'ai apporté leur... Regardez sur Internet, hein, les relocalisateurs, parce qu'on ne relocalise pas que dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il y a une extinction de masse des médias locaux, en fait, dans le monde entier. Hein. Ouais. L'année dernière, aux États-Unis, on a perdu 2600 journaux régionaux. Hein. En France, la diffusion des journaux a été divisée par 4 pratiquement aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années.
Ouais.
Même pas 20 ans d'ailleurs. Donc du coup, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les géants du net prennent la ressource publicitaire qui permet à ces médias, y compris BFM d'ailleurs, de vivre.
Oui.
Et que, donc du coup, il est important d'essayer de voir comment les médias locaux peuvent récupérer cette ressource publicitaire pour vendre, pour financer leur production d'information, parce qu'il y a un enjeu démocratique derrière.
Ouais.
Je précise, le dernier prix Nobel d'économie, Acemoglu, propose de mettre une taxe de 50% pour les géants du net aux États-Unis.
Très bien.
Et c'est
bien.
Pas un fiscalisateur fou.
Les relocalisateurs, voilà.
BFM en fait partie.
Ce soir de Bruno Coquet. Merci beaucoup. Frédéric Bocara, 30 secondes.
Alors
Frédéric,
moi, c'est un coup de cœur pour Noël Bréham et les tribunaux des prud'hommes de Paris. D'ailleurs, parce que le tribunal des prud'hommes de Paris a marché. Noël Bréham, elle faisait une très belle émission radio sur une autre radio qui s'appelle Les Petits Bateaux, son émission, qui était à la fois bienveillante et qui prenait les enfants au sérieux, qui prenait la science et la raison au sérieux, mais de façon assez fine. Et depuis 40 ans à France Inter, elle était en CDD. Et quand on a voulu lui renouveler encore un CDD pour la énième fois, elle a dit non. Donc elle a eu le courage de dire non, elle est allée au prud'homme. Et les prud'hommes, ça fonctionne. Il y a des juges patronaux et salariés et qui ont demandé la requalification de 40 ans de CDD en CDI. Et coup de cœur à l'humanité qui a donné cette information aujourd'hui et grâce à qui j'ai pu l'avoir.
Elle a eu gain de cause. Voilà pour le coup de cœur ce soir de Frédéric. Rafik Smati, 30 secondes, mon cher Rafik, c'est à vous pour terminer.
Et vous avez un député qui est en train de fédérer autour de lui pour rendre l'espace aérien autour de Roissy-Charles de Gaulle incompatible avec la nuit. C'est-à-dire impossibilité de faire voler les avions la nuit. Moi, je trouve déplorable que dans notre pays aujourd'hui, on est en train d'assassiner le transport aérien.
Ouais.
On est le pays qui avons fait le Concorde et on est aujourd'hui celui qui fait de la surrégulation et qui tue le transport aérien. On a cette capacité systématiquement à être dans le suicide au nom d'une bonne conscience, mais malheureusement, avec beaucoup d'effets délétères.
Et ben voilà pour le coup de gueule ce soir de Rafik Smati. Merci messieurs, c'est terminé pour ce soir. Rafik Smati, Bruno Coquet, Frédéric Bocara, merci beaucoup messieurs d'être venus. Merci, à très vite avec plaisir pour Nouvelles Aventures, 19h54. Je vous redonne vite les grands titres de l'actualité ce soir. D'abord, Michel Barnier qui le dit dans le journal Ouest France, il va a priori dégainer le 49-3 pour faire passer le budget 2025. Quand je vois ce qui s'est passé, il fait référence à ces semaines très agitées à l'Assemblée, je considère que je n'ai pas d'autre solution. La négociation de la dernière chance qui se poursuit à Paris entre les partenaires sociaux sur le dossier de l'assurance chômage et de l'emploi des seniors, il faut trouver un accord d'ici cette nuit ou demain matin, sinon c'est le gouvernement qui reprendra la main. Les syndicats de la fonction publique qui appellent à une journée nationale de grève et de manifestation le 5 décembre prochain, ça sera un jeudi. Ils veulent notamment dénoncer des coupes budgétaires dans les administrations prévues dans le cadre du budget 2025. Et puis l'Europe qui inflige une amende à Meta de quasiment 800 millions d'euros pour entrave à la concurrence. Bruxelles reproche à Meta d'avoir lié Facebook à son service d'annonces publicitaires en ligne Facebook Marketplace. Meta annonce qu'il va faire appel. 19h55, Tech & Co dans un instant, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve demain, 18h, pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.